Le journal Jérémy Marillé. Bonjour Jérémy.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, ce sont ces 3 millions de familles qui à partir d'aujourd'hui vont pouvoir bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire, un coup de pouce pour les revenus les plus modestes et un pic d'activité très attendu, vous allez l'entendre, dans les grandes surfaces. Les autres titres, Jérémy.
Le Pays Basque se prépare pour le G7 ce week-end à Biarritz. Sécurité maximale, la crainte de débordement et la justice se prépare. Des avocats de Bayonne ont prévu de dormir dans des lits de camp pour rester sur place et assurer des permanences en cas de surplus de travail. Déjà plus de 2 mois de mobilisation à Hong Kong, les manifestants remplissent les rues alors que les touristes chinois, eux, les désertent. Coup dur pour l'économie, on va aller sur place. Dans ce journal également, un pas sur le point d'être franchi pour la protection des éléphants d'Afrique. Et puis le cognac qui rapporte gros, les ventes de l'eau-de-vie charentaise continuent de battre des records.
Les invités du 6-9 de l'été, 8h moins le quart, Arnaud Robinet, le maire Les Républicains de Reims, 8h20, le grand entretien avec l'écrivain et journaliste Olivier Guèze. Il a dirigé la rédaction d'un livre qui vient de paraître, Le siècle des dictateurs, aux éditions Perrin-Le Point, 22 portraits de dictateurs et une analyse de leur sinistre fonctionnement. Vos questions pour Olivier Guèze au 01 45 24 7000 dès maintenant.
France Inter.
La rentrée scolaire, certains de nos enfants préfèrent sans doute ne pas encore y penser, mais cette rentrée, elle commence déjà à trotter dans la tête des parents. C'est à partir d'aujourd'hui qu'est versée l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Coup de pouce important pour les familles aux revenus modestes, entre 368 et 402 euros pour un enfant âgé de 6 à 18 ans. Et le versement de l'ARS, c'est aussi un moment très attendu par les supermarchés en termes de chiffre d'affaires. Arthur Blanc s'est rendu pour France Inter dans un supermarché de Strasbourg.
Pour préparer la rentrée, il y a beaucoup, beaucoup de choses à acheter. Rifat est à peine arrivé dans le rayon fourniture, mais pourtant, il est déjà complètement perdu.
Il demande trop de choses, par exemple, un cahier à 96 pages de couleur jaune, de couleur noire, et quand j'arrive, je suis un peu perdu, quoi.
Et donc, plus la liste est longue, plus le budget grimpe.
75 euros, entre 250 et 300 euros.
Avec les vêtements, tout ça, c'est à peu près 800 euros, parce que j'ai 4 enfants.
Angélique reçoit aujourd'hui 300 euros d'allocation de rentrée scolaire. C'est toujours le moment qu'elle choisit pour faire les courses de rentrée pour sa fille.
Je pourrais peut-être pas acheter effectivement tout ce qu'il y a sur les listes. Ça sert uniquement à ça. Après, s'il y a un petit reliquat, généralement, elle en profite pour s'acheter sa tenue pour le jour de la rentrée.
Dans ce supermarché de Haute-Pierre, on mise tout sur cette journée. Les fournitures sont réparties sur 4 allées de quasiment 3 mètres de large, ce qui est plus qu'un rayon normal. Le tout parce que 25 000 articles sont vendus le jour du versement des allocations. Bruno Nguyen est en charge de préparer tout ça dans le magasin.
C'est une organisation quasi militaire, puisqu'on a des équipes qui travaillent la nuit pour remplir, on a des équipes qui travaillent en journée pour assister le client et aider le client, et puis le soir, des équipes pour remettre en état tout le rayon pour que l'équipe du matin puisse remplir correctement.
Le supermarché accueille 20 à 30% de clients en plus au moment où les allocations de rentrée scolaire sont versées.
À partir d'aujourd'hui, 3 millions de familles vont donc bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire, allocation versée par les CAF jusqu'à la fin du mois.
Jérémy, direction le Pays Basque où le prochain G7 continue de se préparer.
Le sommet entre les 7 grandes puissances industrielles mondiales, il démarre samedi à Biarritz, mais la région est déjà sous très haute surveillance. 12 000 policiers et gendarmes déployés, les contrôles renforcés à la frontière. À Bayonne, un quartier est d'ailleurs déjà filtré depuis hier, c'est celui des Arènes, là où se trouve le commissariat et le tribunal de grande instance. La justice se prépare aussi à ce G7 et à pouvoir travailler en cas de débordement, Mathilde Dehémy.
La centaine d'avocats du barreau de Bayonne a tout prévu.
Très spartiate, évidemment.
Dans leurs locaux, 3 lits de camp pour assurer des permanences, y compris la nuit. Et il est probable que cela serve, dit Teddy Vermotte, le bâtonnier.
L'infraction est plus courante, le port d'armes, le pétanque et les barres de fer, qui est maintenant sanctionné beaucoup plus durement. Il y a aussi le fait de masquer son visage lors d'une manifestation, de ne pas respecter une interdiction judiciaire de manifester. Je pense qu'on va avoir énormément d'interpellations préventives.
Un surcroît possible de travail anticipé aussi en face au palais de justice, où des préfabriqués sont apparus dans la cour. Tribunal et parquet sont renforcés d'une trentaine de personnes. Là aussi, on se prépare à l'inconnu Black Bloc. Samuel Velta-Simon, procureur de la République de Bayonne.
Ce sont des auteurs d'infractions pénales, souvent violentes. On l'a vu dans divers autres événements en France, mais aussi à l'étranger. C'est une des menaces, une des hypothèses. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Donc nous sommes vigilants à tous les aspects d'une action violente qui pourrait se produire sur le territoire.
Gilets jaunes et gauche radicale basque sont aussi très surveillés. Le quartier des Arènes de Bayonne, calme et cossu, est le premier à être filtré pour le G7. Pascal, aide à domicile, s'adapte.
Nous avons une feuille d'ordre de mission, la carte professionnelle et éventuellement le planning chez les gens chez qui nous intervenons. Pas de problème.
D'autres habitants ont choisi de partir quelques jours loin des barrages de police. En cas de comparution immédiate durant le G7, l'accès aux audiences sera possible.
Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, va se rendre à Biarritz pour présenter le dispositif de sécurité mis en place pour ce G7. L'un des participants à ce sommet, c'est l'Italie, toujours en pleine crise politique. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, doit s'exprimer en début d'après-midi devant le Sénat. Déclaration très attendue où Conte pourrait présenter sa démission et donc mettre fin à cette coalition au pouvoir que le chef de la Ligue, Matteo Salvini, a fait éclater début août. La grande mobilisation du week-end dernier à Hong Kong peut-elle marquer un tournant dans la contestation autour de la souveraineté de la Chine? Peut-être plus d'un million de personnes descendues dans les rues. Et aujourd'hui, la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, fait une promesse. Son gouvernement va discuter, dit-elle, avec les manifestants pacifiques et traiter également les plaintes contre la police. Cela fait plus de deux mois maintenant que les manifestations ont démarré avec un impact sur l'économie de Hong Kong, notamment sur le tourisme. 80% des touristes sont des Chinois, en effet, venus du continent. Beaucoup ne viennent plus. Et ceux qui continuent de venir minimisent les événements. Reportage de Valérie Crova.
Le quartier de Kowloon et ses magasins sont en temps normal très appréciés des touristes chinois qui viennent du continent. Les rues sont aujourd'hui tranquilles. Nous entrons dans une boutique où l'on trouve des compléments alimentaires de toutes sortes, dont certains sont à base d'huile de foie de requin. Nous croisons un groupe de femmes accompagnées par un guide. Vous vous sentez menacée ?
Il n'y a aucune raison d'avoir peur, car ici, on est en Chine.
Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a des manifestations ?
C'est comme des enfants à la maison qui n'écoutent pas leurs parents. Et je crois que le gouvernement chinois peut gérer la situation. La Chine a 1,4 milliard d'habitants. Ceux qui protestent à Hong Kong ne sont qu'une poignée.
Les Chinois du continent se font plus rares à Hong Kong, comme l'explique Ada, une jeune hongkongaise de 22 ans. Selon le secteur touristique à Hong Kong, le nombre de touristes a diminué, en particulier ceux de Chine. Et certains groupes qui veulent se rendre à Hong Kong ont également annulé. En juillet, les réservations auraient chuté de 50%. Hong Kong, Jérémy Thuil, Valérie Crova, France Inter.
La contestation à Hong Kong qui se joue aussi sur les réseaux sociaux. Twitter annonce par exemple avoir suspendu près de 1000 comptes dirigés depuis Pékin pour dénigrer le mouvement de protestation. À chaque jour, quasiment, ces révélations dans l'affaire Jeffrey Epstein. On apprend aujourd'hui que deux jours avant de se suicider, le financier américain a parfait un testament enregistré dans les îles Vierges américaines. Epstein y confie l'ensemble de ses biens estimés à 520 millions d'euros à un trust censé protéger la confidentialité des bénéficiaires. Jeffrey Epstein, soupçonné d'avoir abusé de dizaines de jeunes filles, y compris des mineurs, il s'est suicidé dans la cellule de sa prison le 10 août dernier. Un suicide qui pose beaucoup de questions. Le directeur de l'administration pénitentiaire américaine vient d'ailleurs d'être remplacé.
7h08, le journal Jérémy Marié. Jérémy, les éléphants d'Afrique devraient être mieux protégés.
Mais la convention qui régit le commerce international des espèces menacées, la CITES, se réunit en ce moment en Suisse, à Genève, et l'interdiction de la vente d'éléphants sauvages à des zoos ou à des cirques est bien partie pour être adoptée. Sandy Dauphin.
Il s'agit de limiter strictement les ventes d'éléphants sauvages du Botswana, Namibie, Zimbabwe et Afrique du Sud. Elles seraient autorisées uniquement si les pachydermes retrouvent un espace protégé naturel ou si elles sont destinées à des programmes de conservation. Cela revient à interdire leur capture pour des zoos et des cirques, se réjouit le docteur Jan Schmidt-Burbach de la Société mondiale pour la protection des animaux.
Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être exportés vers des zoos en Chine ou à Dubaï, ce qui est une énorme avancée pour protéger les éléphants d'Afrique. On sait par exemple que le Zimbabwe a vendu 97 éléphants sauvages entre 2012 et 2018. Ils ont été capturés dans leur milieu sauvage et transportés en Chine où ils ont fini dans des zoos. Ils sont soumis à des traitements cruels, domptés pour divertir les gens.
Les défenseurs des éléphants ne crient pas tout à fait victoire car la mesure doit encore être approuvée formellement par les pays membres de la convention CITES le 28 août prochain. Et certains États comme le Zimbabwe voudraient bien la torpiller car l'exportation des éléphants sauvages rapporte des millions de dollars.
Mais pour le moment, Évidemment, cette proposition, elle est tout de même soutenue par une majorité de pays membres de la convention qui régit le commerce des espèces menacées.
Le commerce d'un alcool français ne s'est lui jamais aussi bien porté, Jérémy.
Cet alcool, c'est le cognac. Pas besoin d'en boire pour avoir la tête qui tourne. Il suffit de lire les chiffres. Les ventes de cognac progressent pour la 5e année de suite. Une hausse de 7% cette année. Plus de 200 millions de bouteilles vendues dans le monde. Près de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pourtant, il y a encore quelques années, certains viticulteurs arrachaient leurs vignes en faute de débouchés. C'est un vrai travail de promotion qui paye aujourd'hui pour Patrick Ragnaud, le président du Bureau national interprofessionnel du cognac.
Les résultats d'aujourd'hui sont le résultat des efforts entrepris depuis maintenant de nombreuses années, ça c'est certain. Ce sont nos consommateurs américains, nos clients chinois, qui apprécient particulièrement nos produits. Alors c'est vrai que nous savons aussi leur présenter, nous savons leur expliquer. Après, les usages de consommation ne sont pas les mêmes. L'habitude de boire en long drink, en cocktail, qui est inscrite depuis très longtemps dans ces modes, dans ces pays-là, je pense, nous aide énormément. Aujourd'hui, le développement du cocktail avec les alcools bruns et le cognac est très favorable à notre catégorie. Mais tout ça, c'est le résultat d'un travail de fond auprès des bars, auprès de communication, d'image, un gros travail de promotion des marques aussi, qui est fait depuis de nombreuses années. Et ce travail, aujourd'hui, il paye. Hein. Ça fait maintenant donc 5 ans que notre cognac se développe dans le monde entier. Nous avons de belles perspectives devant nous. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Nigeria, je pense à ces marchés importants et qui ont appris le cognac et qui aujourd'hui, pour nous, sont des marchés de développement importants.
Une situation tellement favorable pour le cognac aujourd'hui que l'interprofession réclame des droits à planter de nouvelles parcelles en Charente et en Charente-Maritime. Allez, on termine avec une exposition en ce moment à Bourg-en-Bresse, au monastère royal de Broux. Voilée, dévoilée, c'est le nom de cette expo. Elle nous montre comment les artistes se sont emparés de ce voile et l'ont représenté depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, Isabelle Pasquier.
Culturel, religieux, objet de séduction, aucun morceau de tissu n'aura autant été porteur de polémique et de complexité. Pour les artistes, le voile est l'objet de tous les fantasmes, comme ce fascinant visage voilé, tout en marbre, de Giovanni Strazza. Bien avant la naissance de l'islam, le voile est symbole de chasteté, de vertu et de soumission à l'homme. Pierre-Gilles Giraud, commissaire de l'expo.
Le plus ancien texte date du XIIe siècle avant Jésus-Christ, un texte de loi assyrien qui fait l'obligation aux épouses de porter le voile. Et puis on le trouvait également dans l'antiquité païenne. L'exposition s'ouvre par une statuette de jeune femme chypriote du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est revêtue d'un himation, le manteau grec, qui lui couvre non seulement les épaules, mais aussi la tête et même le devant du visage. Ce qui signifie bien que cet usage est antérieur à l'apparition de l'islam. C'est d'abord une marque de soumission, un indice de la société patriarcale et du contrôle masculin sur la sexualité féminine. L'homme, il a éprouvé le besoin d'enfermer les femmes derrière un voile.
Au XIXe, les peintres orientaux ont largement fantasmé sur les voiles des femmes musulmanes qu'ils n'hésitent pas à dénuder. Plus contemporaine, ces photos subversives de l'artiste iranienne Shadi Radirian. Sous le tchador, le visage est remplacé par un fer à repasser ou une théière, quand le voile montre plus qu'il ne cache.
L'exposition voilée dévoilée, c'est jusqu'au 29 septembre au monastère royal de Broux, à Bourg-en-Bresse.
C'était le journal de Jérémy Marier. La circulation, OPC Mobilité, Kevin Dufraîche. Kevin, ça coince un petit peu au sud de Lyon.
Oui, à cause notamment de cet accident à Ternay sur l'A7 en direction de Lyon. Vous roulez sur une seule voie au lieu de deux. Il y a 2 kilomètres de bouchons sur l'A7, mais aussi des difficultés sur l'A47. Quand vous venez de Saint-Étienne, bouchons au niveau du pont de Givors, puis sur l'échangeur qui permet de rejoindre justement l'autoroute A7. Il y a là un bon quart d'heure de ralentissement.